La lettre de Monsieur de Simandre. Je profite pour vous écrire, mon cher cousin, du congé d'un de mes hommes qui s'en va vers votre pays, et je prends en même temps la liberté de vous recommander le drôle. C'est un gaillard, vous pouvez sans doute l'utiliser. Il se montre en toute conjoncture d'une ressource et d'une discipline admirable, et j'aimerais en ceci que votre fils lui ressemblât. Car c'est votre Polydore qui sera le sujet de ma lettre, ma santé restant bonne et mon âge me préservant des aventures où le sien ne le hasarde que trop. Donc, je ne vous parlerai pas de moi. Vous me savez d'un bout à l'autre, de la garde à la pointe de la riposte à la parade. Je suis le même, et je ne m'apercevrai guère des années si la différence entre les hommes de notre temps et les garçons d'aujourd'hui ne me faisait sentir ce qui nous sépare. Nos jeunesses ne ressemblent pas à la leur, et à notre vieillesse s'en trouve plus loin d'eux. Polydore m'avertit de son arrivée et de son intention de parvenir ici par eau à cause de la douceur du chemin et de la beauté des rives. La lenteur des barques lui plaisait plus, disait-il, que la hâte des postes. Le bruit des rames lui paraissait plus harmonieux que le galop des limoniers. Ce fut au moins ce que je démêlais de son billet alambiqué et laconique, qui m'incommoda du parfum de ses cires et m'étourdit du galimatia de son amphigourie en même temps que les entrelacs prétentieux de l'écriture m'exaspérèrent. J'ôtais mes lunettes et les reposais sur ma table. J'allumais ma pipe et, en attendant que ce godelureau eût descendu le fleuve et aborda au port de Pombourg, je me remis à fumer en regardant le ciel à travers les vitres de ma fenêtre, tout en caressant mon chien et en laissant aller la journée. Vous connaîtrez ce coin de ciel, mon chien Diogène, et le lieu où j'habite, mon cher cousin, si vous vous étiez décidé jamais à ce qu'entreprit Polydore. Mais le séjour de ma capitainerie et du vieux château, où je représente l'autorité du prince dont vous conseillez les fantaisies, n'a rien pour tenter un intrigant comme vous. Vous êtes en posture de cour et ne risqueriez pas de perdre l'aubaine de quelque occasion en venant visiter dans son repaire un vieux doyen de ma façon. D'ailleurs, vous n'êtes pas beaucoup plus jeune que moi, mais on vous dit plus ingorbe, car la révérence, la pirouette et le pied de grue éclopent moins que les grands gardes, les sièges et les embuscades qui font que je suis revenu alors que vous allez toujours, pimpant et guilleret, puisant votre tabac dans la boîte diamantée des cours, et tandis que je tire le mien du pot de grès des corps de garde. Et vous lirez avec un binocle d'écaille ce que je vous écris à l'aide de mes besicles de corne. Quoique un peu longue, mon cher cousin, ma vue reste bonne et j'aime voir ce que je puis contempler chaque jour. Les objets qui m'entourent me sont familiers. Je connais mes lieutenants et, par son nom, chacun de mes soldats. Je distingue chaque sentinelle à la façon dont elle heurte la crosse de son fusil sur la vieille pierre du rempart. Ma fenêtre donne sur une charmille en quinconce où je me promène, puis, accoudé au parapet, je vois la muraille à pic. À droite et à gauche, de grosses tours la renflent de leur maçonnerie corpulente. Elles soutiennent la vaste terrasse fortifiée où repose le château, à la fois galant et militaire, parmi des arbres et quelques fleurs. C'est vraiment un beau lieu. De là, on domine toute la ville avec ses maisons, ses rues creuses, ses places étalées, ses clochers anguleux, puis son quai le long du fleuve qu'un pont traverse. J'y regardais passer des fourriers revenant de corvée avec de grosses bottes de foin. Ils riaient, quelques-uns mâchonnaient la tige d'une fleur. Un jour, vers 4 heures, quand on va m'avertir d'une arrivée de barque. Elles étaient au détour du fleuve, derrière la grande île de Peupliers. Je descendis au port pour les voir aborder. Elles approchaient peu à peu, naviguant entre les sables par les passes balisées. On en distinguait quatre à la suite. Toutes portaient des voiles blanches carguées, les coques peintes de belles couleurs. Bon, on ne ramait plus, des bateliers les menaient à la perche. Enfin, elles accostèrent, on les amarra au quai et on jeta les passerelles. Polydore se leva des coussins où il était étendu à l'avant du bateau. Un temps de lait l'abritait. La tenture de soie s'étalait au haut de 4 rampes d'argent. Il en soulevait le pan d'une main chargée de bagues. Sa mise m'étonna. Il portait un ample habit bariolé et à sa boutonnière jacassait une de ces tulipes bigarrées dites perroquets. Le bateau d'ailleurs était aussi une volière. Je sautai sur le pont, un peu brusquement peut-être, car les cages pleines d'oiseaux curieux s'effarouchèrent avec un bruit d'ailes et de cris, en même temps que je heurtais du bout de ma botte le ventre d'une mandoline qui traînait là. Des piles de livres où je m'empêtrais sombrèrent à l'eau et enfoncèrent du poids de leur reliure. Bleuâtres, mordorés, vernis ou pourpre de leurs maroquins lisses ou de leurs peaux imbriquées, ils semblaient, à travers l'eau où ils disparaissaient, devenir de changeants poissons, murènes, glauques ou cyprins orangés. Et pour achever le désordre, un petit singe, sur la queue duquel je marchais, grimpa en criant dans les cordages du mât et se tint au sommet, assis sur son derrière et clignant des yeux en sa face glabre. Polydore feignit de ne s'apercevoir de rien, me fit asseoir. Il se montra plus cérémonieux qu'expansif, mais d'une minutieuse politesse. Il m'invita à dîner. Les barques étaient amarrées à la file et on passait aisément de l'une à l'autre. Une table servie nous attendait dans la seconde. Le soir fut doux et beau, la chair excellente. Le petit singe, descendu de son mât, gambadait autour de nous, en jonglant avec des boules de verre qui se brisaient en répandant des senteurs odorantes. À la fin du repas, mis en belle humeur, j'insinuai à Polydore que je ne doutais pas que la troisième barque ne contînt jalousement quelque belle dame dont il fut amoureux. Il sourit et, me prenant par la main, me pria de le suivre. Cette barque était aménagée en boudoir et en salon de repos. De précieuses soies l'étendaient. Des lustres de cristal ou de cuivre se balançaient imperceptiblement à la douce inflexion de la rivière. Au milieu se trouvait une rotonde de miroir. À mes offres de loger au château, Polydore préféra le séjour de ses barques. La quatrième, où je le laissais, contenait des chambres commodes, et je lui souhaitais bon sommeil en me retirant. Quelques jours après, il vint me voir. Il portait un livre sous le bras et un parasol pour se garantir du soleil. Je lui fis visiter le château. Il s'intéressa vivement aux mousses qui couvraient les vieilles pierres. Il me parut pâle et je lui reprochai la mollesse de sa vie. Mes officiers, bons garçons et francs vivants, l'eussent distrait de sa solitude. Il refusa. Non, non, monsieur, me dit-il, je préfère ma demeure flottante. La rivière est douce au sommeil, elle berce à peine. On n'entend pas plus couler que la vie, et l'on se sent porté par elle sans qu'elle vous emporte dans sa fuite. J'aime ma solitude sédentaire. J'aime l'ombre aiguë et charmante que fait sur l'eau, vers le soir, votre château. À travers la grande arche du pont, je vois les peupliers de l'île. On est assez près de la mer pour que quelques mouettes remontent jusqu'ici. J'aime leur vol. Celui des hirondelles me distrait aussi. Les chauves-souris se croisent et mon petit singe les guette le soir. Elles sont aux oiseaux ce qu'il est à l'homme, suspect et apparenté. Comme je vis que Polydore tenait à ses manies, je cessai de les combattre et, sans plus m'occuper de lui, retournai à mes affaires. Je me disposais à partir pour une tournée dans la région. Au matin dit, avec mon escorte, je traversai le pont et je vis Polydore qui me saluait de sa barque. Il venait de se baigner au fleuve et se tenait encore ruisselant d'eau. Nu, il n'était pas, comme je l'aurais cru, maigre ou débile. Le soleil faisait briller les gouttes sur sa peau blanche, et il apparaissait en plein matin, svelte, nerveux, de chair ferme et de muscles sournois. Je lui rendis son salut, il plongea et le rejaillit autour de sa chute. À mon retour, je fus stupéfait de la rumeur qui m'accueillit. Polydore venait de tuer deux hommes en duel et menait par tout le pays une vie effrénée et inattendue. La ville et les alentours en bourdonnaient. Leur tranquillité ordinaire se sentait comme ensorcelée. Un siècle de rigorisme fondait sa décence comme une cire sur l'autel du diable. Un vent de folie soufflait. Les graves repas d'autrefois se changeaient en orgies. Les sages quadrilles finissaient en sarabandes. Les intrigues de jadis se poussaient en scandale. Polydore, imperturbable, menait ce vertige, le sourire aux lèvres, une rose à la boutonnière. La contagion gagna les campagnes. Un à un, les châteaux au calme, au bout de leurs allées d'arbres, engourdis par leurs pièces d'eau, correctes au fond de leur parc, s'illuminèrent. Les salles de danse rouvrirent. Les girandoles s'enguirlandèrent. Le carrosse de fête et la berline de voyage se croisèrent sur les routes pour l'apparat ou l'enlèvement. On bâtissait. L'échelle du maçon appliquée au mur favorisait l'escalade du galant. Il y eut des mascarades. Le matin, les barques où les élégants venaient chaque jour prendre de Polydore l'ordre de la journée restèrent muettes. Les passerelles ne s'abaissèrent pas. Le petit sage ne monta pas grimacer au Dumas. Tout semblait dormir. À midi, personne n'avait paru. On commença à s'inquiéter. Ces beaux messieurs causaient entre eux avec animation. L'absence de Polydore les étonnait moins que la désertion des domestiques. À la fin, on prit le parti de visiter les barques. Consulté, j'en donnai l'ordre. La première était vide. Aux volières, pas un oiseau. Les cordes de la mandoline cassées, un livre ouvert et une page arrachée. Dans la salle à manger, un verre renversé rougissait la nappe. On arriva au salon, porte close. On les enfonça. Chacun se pressa pour voir. Nous entrâmes. Personne. Mais dans le grand boudoir en rotonde, où leur colère avait brisé tous les miroirs, on trouva seuls, les cheveux épars, accroupis ou couchés, nus, les neuf plus belles dames de la ville, qui chacune avait cru sans doute y venir en secret et s'y trouvaient réunis par le caprice singulier de leur unique, multiple et alternatif amant.